chapitre וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה יתרו qui était un prêtre en Midian qui est le beau-père de Moshe וישמע donc il a entendu את כל אשר עשה אלוקים למשה tout ce qu'Elohim avait fait en faveur de Moshe ou לישראל עמו et pour Israël son peuple qui hotsi Hachem et Israël Mimitzraïm. Il a entendu que Hachem a sorti l'Ibn Israël d'Égypte. Alors, Vaikach Yitro Choten Moshe et Tzipora Eshet Moshe, Achar Shiluchea, Vet Shne Banea Asher Shema Echad Gershom, Ki Amar Ger Haiti Beretz Nochia, Veshema Echad Eliezer, Ki Elokei Avi Beezri, ויצילני מחרב פרעה, ויבוא יתרו חותן משה, ובניו ואשתו, אל משה, אל המדבר אשר הוא חונה שם, הר האלוקים. בואו נסתכל פה לסטן. Donc, יתרו a entendu quelque chose. Donc, c'est un non-juif. Il est prêtre de Midian. Il est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Vous savez que יתרו faisait partie du conseil de פרעה. Yitro, c'était un des trois conseillers de Paro. Paro avait trois conseillers. Le Paro de, on parle ici du Paro de qui a pris la décision de noyer les garçons juifs. Dans ces trois conseillers, c'était Yitro, il y avait Iov et Bilam. Et c'est Bilam qui a eu la triste idée de proposer de noyer les garçons. Puisque les astrologues de Paro avaient dit qu'ils voyaient que les êtres sauvés, là, qu'il y avait que venait de naître, ou allait naître, le sauveur des juifs. Et comme ça, c'est un garçon, on a décidé qu'on allait noyer tous les garçons. Alors, ce décret a été donc pris par Paro. Yitro, il n'a pas voulu collaborer avec une idée pareille. Donc il s'est enfui et il est devenu un paria à la société égyptienne. Et ça c'est Yitro. Et Iov est resté, il s'est tué. Alors vous connaissez probablement le pshat. On demande à Yitro. Pourquoi il s'est tué? Pourquoi il est resté et il s'est tué? On demande à Iov, pardon, pourquoi il est resté et il s'est tué? Alors il a dit, je suis resté, bon. Je suis tué parce qu'on ne pouvait rien faire. Bilam avait eu une bonne idée aux yeux de Paro et c'était acquis, donc ça ne servait à rien de protester. Alors bon, d'accord, ça donnait cet argument-là. Et quand Yitro a souffert, quand Iov a souffert, pardon, quand il a été soumis à toutes sortes d'épreuves, et c'est marqué que, bon, il y a eu un moment où il n'en pouvait plus, il a commencé à crier vers Hachem. Alors Hachem lui a dit, mais pourquoi tu cries? Tu sais bien que c'est moi qui t'ai envoyé cette épreuve. Alors Iov a dit, oui, mais quand ça fait mal, ben on crie. Il a dit, ça veut donc dire que ça t'a pas fait mal quand on a pris ce décret pour noyer les petits garçons juifs. Ça t'a pas dérangé. La preuve, c'est que pas crier. Ah, tu disais que ça servait à rien, mais tu vois bien, quand ça fait vraiment mal, on crie. Quand ça sert à rien. Donc c'est pour ça que, en fait, Hachem a remis Iov à sa place, en quelque sorte. Il a refusé son terutz, mais c'est toujours sur le fameux modèle de « on te juge d'après ce que tu dis toi-même ». Ok, tant que, ouais, d'accord. Tu dis que ça servait à rien, ok, c'est bon. Si durant toute ta vie, tu crieras jamais, ça sert à rien, ça te fait mal, ça sert à rien de crier, tu cries pas, bon, j'ai rien à dire. Mais si tu cries, alors, c'est toi-même qui te juge. Tu vois bien que si vraiment ça t'avait fait mal, tu aurais crié. Alors, Yitro, lui, il a voté avec ses pieds, il est parti, il est devenu un paria de la société égyptienne et quand il est Cohen, ça veut dire qu'il est un prêtre, il est... Bon. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui inspire la terreur parce que quand il a des filles et quand ses filles vont, puis les jeunes gens n'ont pas peur de lui, et ils repoussent, même si les filles elles ont commencé à abreuver les troupeaux de leur père, on les chasse et eux ils se servent d'abord et puis ensuite elles auront ce qui reste. Donc il est prêtre, mais c'est pas un prêtre auquel les gens donnent suffisamment de respect pour respecter ses filles, par exemple. Respecter ses troupeaux, ses filles. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà pris quelqu'un et... Voilà, donc... Ça c'est... voilà le personnage Yitro. Alors qu'est-ce que... Il a entendu quoi? Alors on nous dit qu'il a entendu, en tout cas, qui Otsi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Il vient après Yetziat Mitzrayim, évidemment. Il vient, il rencontre Moshe après la sortie d'Égypte, en tout cas. Maintenant, où dans le temps? Où est-ce que... Qu'est-ce qu'il a entendu d'autre? C'est-à-dire, quand est-ce qu'il vient dans l'histoire du peuple? Alors c'est... Rashi pose la question. C'est le texte dit, Vaishma Yitro, Azmashmoa Shama Uba. Rachidi pose la question, c'est Chazal qui pose cette question. Qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, Kriat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Une des réponses, c'est qu'il a entendu deux choses. En plus de la sortie d'Égypte, il a entendu Kriat Yamsouf, le passage de la mer, et il a aussi entendu le miracle de la guerre contre Amalek. Et à ce moment-là, il vient. Vous voyez que quand il vient avec Tzipora, la femme de Moshe, et les deux fils de Moshe. Je reviens sur le Rashi, mais regardez le pasuk bet. Vaikar Yitro Choten Moshe, il a pris Tzipora, Eshet Moshe, Achar Shiluchea, après qu'elle ait été renvoyée. Et Vetch Nebaneha, et ses deux fils, ils sont présentés ici comme les deux fils de Tzipora. D'accord? Et ils ne sont pas présentés comme les fils de Moshe Rabbeinu. Ils sont les fils de Moshe Rabbeinu, mais c'est marqué ici Banera. Par contre, dans le nom qu'ils portent, on voit bien que c'est Moshe qui leur a donné le nom. Puisque Gershom, son nom c'est Ger Sham. J'étais étranger là-bas. Ger Haïti Be'eretz Nokria. C'est Moshe Rabbeinu qui dit que quand je suis arrivé, quand Moshe Rabbeinu s'est enfui, après que sa tête était mise à prix parce qu'il a tué l'Égyptien, il s'est enfui. Et il est arrivé chez Yitro. Et Yitro lui a donné l'hospitalité, et il lui a même donné une de ses filles en mariage, donc Tzipora. Alors il a appelé son enfant d'après la situation qui était la sienne. C'était comme ça, visiblement, ils savaient donner des noms en fonction de leur situation. Il appelle son fils Gershom, il dit, parce que j'étais étranger dans ce pays. Et puis le deuxième fils, il va l'appeler Eliezer, et ce deuxième fils, il porte ce nom, parce que là aussi, il dit, Eloke avi be'ezri, ve'yatsileni mecherev paro. Le Dieu de mon père est venu à mon aide et m'a sauvé du glaive de Paro. Il m'a sauvé de l'épée de Paro. Donc, les noms de ses fils, c'est les noms des épisodes de la vie de Moshe. Un peu comme les fils de Yaakov portent des noms des épisodes de la vie des femmes de Yaakov. Ici, et comme Yosef a donné à ses fils aussi des noms qui font référence à ce qui lui est arrivé dans sa vie, ils nomment leurs enfants d'après les épisodes de leur vie. C'est intéressant comme idée.
Benjamin aussi, il a nommé en fonction de Yosef ses enfants.
Oui, non, lui aussi, tout à fait. Donc, visiblement, on prend les événements de la vie et on nomme les enfants d'après ces événements-là. On va revenir là-dessus. Mais en tout cas, vous voyez, c'est marqué qu'il a pris Tsipora, la femme de Moshe, après qu'elle ait été renvoyée. Quand est-ce qu'elle a été renvoyée? Regardez Rashi. Rashi Lukhéa, qui Rashi. Moshe Rabbeinu était en Midian, il était chez Yitro. Et Hachem lui a parlé et il lui a dit Shuv Mitzrayma. Il lui a dit maintenant tu retournes en Égypte. Et il lui a expliqué que les gens qui voulaient le tuer ne sont plus au pouvoir, en tout cas ils n'ont plus de pouvoir, et que Hachem voulait qu'il aille pour faire sortir les Bnei Israël de Mitzray. Alors Moshe, finalement il y est allé. Vaikach Moshe et Ishto et Banav. Moshe Rabbeinu a pris sa femme et ses enfants. Et il est parti en direction de Mitzrayim. Et quand il est arrivé en Égypte, Vayetse Aharon Likrato, son frère Aharon est sorti à sa rencontre. Vayef Gesheu, il l'a donc effectivement rencontré Behar HaElokim, sur la montagne d'Elokim, donc ils se sont rencontrés là-bas au Sinaï. Amarlo et Aaron a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Mihem alalu. Qui c'est cela? Qui c'est cette femme et ses deux enfants? Amarlo, Zuhi ishto, ishti, she nasati be Midian, ve elu benai. Elle, c'est la femme que j'ai épousée en Midian, et eux, ce sont mes enfants. Amarlo Vechaifan. Alors Aaron a dit à Moshe, et tu les amènes où exactement? Amarlo le Mitzrayim. Je les amène en Égypte. Je vais en Égypte et je les amène en Égypte. Amarlo à la Rishonim à nous Mitztarim. Nous, on souffre d'avoir en Égypte des femmes et des enfants qui souffrent avec nous. Vatabal aussi Faleem. Et toi, tu viens en rajouter? Isamar, là, alors Moshe Rabbeinu l'a compris, il a dit à Tsipora, il lui a dit, « Lechi levetavich. » Il lui a dit, « Retourne dans la maison de ton père. » Donc c'est ça, Shiluchéa, elle a été renvoyée. « Natlash nebaneha ve'alchala. » Elle a pris ses enfants et elle est partie. Et en fait, les Chachamim expliquent que elle est retournée, et Shiluchéa, ça veut dire, en réalité, quand il a dit « retourne dans la maison de ton père », ça voulait dire que Moshe lui dit « si tu veux, tu es divorcé ». C'est-à-dire, si tu veux maintenant te marier avec quelqu'un d'autre, moi je vais en Égypte, on ne sait pas ce qui va m'arriver, etc., tu es libre. Shiluchéa, ça veut dire « Girushin ». Mais elle n'a pas voulu. Elle s'est considérée encore comme la femme de Moshe. Donc ça dépendait d'elle en vérité. C'est assez curieux comme système, comme situation. Il le dit, en ce qui me concerne, c'est comme s'il disait, écoute, moi je ne peux pas prendre la responsabilité de te laisser à Gouna sans savoir ce que je vais devenir, etc. Donc, en ce qui me concerne, tu es libre. C'est toi qui décides. Et elle a décidé de rester la femme de Moshe. Et donc elle revient avec Yitro à ce moment-là. Quelque part, on a l'impression ici que Moshe l'a compris que le prix qu'il devait payer pour... qu'il devait payer, qu'il lui était imposé ici, quand on vient et qu'Hachem lui a donné l'ordre d'aller en Égypte, c'était, tu ne t'appartiens plus, quoi. Le personnage privé Moshe n'existe plus. Tu es entièrement au service du Klal, et donc il n'y a aucun de... On ne va pas tenir compte de... Je te libère, tu vas être libéré de toutes les contraintes que tu t'es mise jusque-là pour être totalement disponible pour le Klal Israël. Le Ramban, vous avez un Ramban, regardez le Ramban sur le pasuk Achar Shiluchea. Le Ramban dit Bavour Shizkira Katuv Vaikach Moshe et Ishto Ved Banav Vayeshev Mitzrayim. Utsrach Lomar Kan Shehaita Bevet Avia. Étant donné que la dernière information qu'on avait sur Moshe et son épouse, c'est ils étaient partis de Midian pour aller en Égypte. Il faut nous dire que qu'elle a été renvoyée et que maintenant elle revient. Parce que sinon on ne comprend pas. Qui Moshe Shalcha Sham. C'est Moshe qui l'a envoyé auprès de son père. Alors le Ramban dit Vitachen Sheyomar qui lakra Yitro lo Shiva Elav. C'est possible que la Torah veuille nous dire ici que c'est Yitro qui a décidé de ramener sa fille auprès de Moshe. Afalpi Sheshalcha Mimenu, bien qu'il l'ait renvoyé, Bavur Sheshama Kol Asher Asa Elokim le Moshe. Quand il a entendu tout ce qu'Elokim avait fait à Moshe, alors, Ki Me'ata Raoul Alechet Achare Amelech Bechol Asher Yelech. Parce que maintenant qu'on s'aperçoit que Moshe est le roi, alors il convient de suivre le roi où il doit aller, peu importe. Maintenant il est roi. Alors tu suis le roi. Avant, on ne savait pas s'il était un terroriste, un type qui vient prêcher la révolution en Égypte, etc. Alors peut-être qu'effectivement, il trouve à penser que, puisqu'il l'a renvoyé, je la garde chez moi, il aurait pu la ramener à son mari et lui dire, écoute, c'est ta femme, occupe-toi de ta femme. Mais là, il a compris qu'éventuellement, elle ne pouvait pas le suivre, c'était trop dangereux, etc., ou impossible, ou mitzanachnu mitzarim, mais maintenant qu'il est roi, il convient de suivre le roi là où il va. Donc le Ramban, il a l'air de itachen, il dit, c'est possible, il fallait expliquer les choses comme ça. Ça, c'est par rapport au diouk que faisait Herschel. Ça veut dire qu'effectivement, on voit dans ce texte que c'est Yitro qui l'amène. Vaikach Yitro. Seulement, en vérité, Yitro, quand il est présenté ici, il est présenté déjà au premier pasouk, on a déjà dit qu'il était Choten Moshe. Et au deuxième pasouk, on répète qu'il est Choten Moshe, on commence à savoir. On vient de le dire, pourquoi tu répètes qu'il est Choten Moshe, qu'il est le beau-père de Moshe? Bon, il n'est beau-père de Moshe que dans la mesure où Tzipora est la femme de Moshe. Donc lui, il a considéré qu'il vient ici en tant que beau-père de Moshe. Donc Tzipora est la femme de Moshe pour lui. Donc en tout cas, lui, il considère qu'il est le beau-père de Moshe, donc elle est sa femme. Donc c'est un peu ambigu ce statut-là dont je vous ai parlé, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire, c'est toi qui décides si tu es divorcé ou pas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas accepté le guet, qu'il lui a pas donné.
Il n'a pas, à ce moment-là, il ne donnait pas de guet, on est avant Matan Torah. Il lui a dit, tu vas chez ton père, tu retournes chez ton père, ta mère. Il dit, va chez ton père, tu retournes chez ton père et ça voulait dire, disent les commentateurs, ça voulait dire que, bon, elle pouvait considérer que c'était un renvoi, au sens qu'il lui rendait sa liberté de mariage, quoi. Alors, je reviens sur le Rashi du tout début, où Rashi a dit qu'il a ramené la Gemara dans Zvachim, parce qu'il y a plusieurs opinions sur qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a fait bouger. Ce qu'il a bougé, c'est Kriyat Yam Souf, est-ce que c'est Milchemet Amalek? La Gemara, elle dit les deux choses. Il y a même une opinion qui va dire qu'il est venu après Matan Torah. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez terrible. C'est tragique, si on peut parler comme ça, c'est que, quelle que soit la lecture qu'on va en faire, dans le clan d'Israël, tout le clan d'Israël a vécu quelque chose. Tout le clan d'Israël a vécu, sortie d'Égypte, passage de la mer, Milchemet Amalek, Matan Torah, tout le clan d'Israël. Sauf trois personnes. Tzipora et les deux fils de Moshe. Donc les fils de Moshe, ils ne sont pas sortis d'Égypte.
Mais ils sont entrés.
Ils ne sont pas entrés, mais ils n'ont pas fait l'expérience de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu avait fait un seder, il avait deux personnes, enfin trois personnes auxquelles raconter la sortie d'Égypte. Nous, on raconte la sortie d'Égypte. On n'y était pas, on raconte. Mais... D'ailleurs, quand ils sont entrés en Eretz Israël, les Bnei Israël avaient entendu Yoshua. À part Yoshua et Kalev, les hommes étaient morts. Tous les adultes étaient morts dans le désert. Donc, on racontait la sortie d'Égypte, le cas échéant, en Eretz Israël, à des gens qui ne l'ont pas vécu, en tout cas pas comme adultes. Ils l'ont vécu éventuellement comme enfants, mais pas comme adultes. Sauf les femmes. Parce que les femmes ne sont pas mortes. Donc il racontait pour les femmes. Parce que les femmes ne sont pas mortes, puisque la xéra que toute la génération va disparaître, ça ne touchait pas les femmes.
Et ils ont été convertis, les deux fils de... Enfin, ils ont été...
Oui, bon, la conversion, oui, comme les autres. Ben, s'ils sont venus à Matan Torah, avant Matan Torah, Matan Torah c'est une conversion pour tout le monde. Tout le monde a... Rambam dit que Matan Torah c'est une conversion. S'ils sont venus après Matan Torah, alors effectivement... Ils sont les premiers à être pris comme nous, et pas comme les... C'est comme nous, c'est-à-dire comme des gens, hein, comme les gens qui n'ont pas été convertis au moment de Matan Torah. Tout le clan d'Israël a été converti au moment de Matan Torah, sauf, si on dit qu'ils sont venus après, sauf Tzipora, et les fils de Moshe, parce que la conversion, la pseudo-conversion qu'il y a eu avant... Elle ne valait pas, puisqu'il a fallu refaire une conversion au moment de Matan Torah. Les Bnei Israël, à Matan Torah, ils ont...
C'est une vraie conversion.
Rambam, dans le 13e perek de Hilchot Issurei Biya, il dit Bishlosha Dvarim Nichnesu Israël Livrit. Les Bnei Israël sont entrés avec, par trois choses, ils sont entrés dans l'alliance. Bemila, Tvila, Vekorban. On fait la Mila, donc c'est les hommes. On fait la Mila, ils ont fait une Tvila, et ils ont apporté un Korban. Mila, Aïta Bemitzraim. La Mila, elle s'est faite en Égypte, que chez Néhémin, quand le Passouk a dit Vechol Arel Loyochalbo, lorsque la Torah a dit que toute personne non circoncis ne pourrait pas manger du Korban Pessah, alors Mal Otam Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu a fait la Mila de tout le clan Israël pour qu'il puisse manger du Korban Pessah. Et pourquoi il a fallu faire ça? Pourquoi il fallait faire la Mila? Yishekulam Bitlu Brit Mila Bemitzraim. Parce que tous ont été mevatel, la Mila en Égypte, Chutz Mishevet Lévi, à l'exception de la tribu de Lévi. Vazen Emar Britra In Soru, et ils n'ont pas gardé, donc tant qu'ils la garderont par la suite. Tvila, Aïta Bamidbar. La Tvila, ils l'ont faite dans le désert, Kodem Matan Torah, que Shenema Vekidashte Mayom Umachar Vekhibzu Khibzu. Simlotam, c'est marqué, ils se sanctifieront, vous vous sanctifierez aujourd'hui et demain, donc les deux jours avant Matan Torah, et Vechibsu, et ils vont laver leurs vêtements. Laver les vêtements, ça veut dire faire Tvila. Vekorban, ils ont aussi apporté un Korban, Kshenema, Vaishlach et Naareb de Israël, Vayalou, Olot, Alide Kol Israël, écrivez-vous. Et on a envoyé les Nahare Bnei Israël, les jeunes gens d'Israël, peut-être en disant les prorotes, etc. On l'avait vu une fois dans la Gemara. Et ils ont amené les Olot au nom de tout Israël. Ça, c'est la conversion standard. Et Rambam ajoute immédiatement après, Vechen le Dorot. Il en va de même dans toutes les générations ultérieures, donc jusqu'à maintenant, que Sheirtse Hagoy Leikanes Livrit, quand un non-juif voudra entrer dans l'alliance, ou l'istofef tachat kanfe ashrina, se mettre sous les ailes de la shrina, vikabel alav ol Torah, qu'il accepte le joug de la Torah, tsarich mila, tvila, ve'artzat korban. Il faut mila, tvila et korban. Vim le kevahi, et si c'est une femme, évidemment, tvila et korban. Qu'est-ce qu'on apporte comme Corban, que c'est marqué chez Neymar, Kachem Kager, vous ferez comme un étranger. Zma Atem Bemila, de la même manière que vous, né Israël, vous êtes entré dans le clan Israël, dans l'alliance, Bemila Tvila Ve'artzat Korban, Afager le Dorot Bemila Tvila Ve'artzat Korban. Donc, si vous voulez, ça n'existe pas dans le clan Israël, quelqu'un qui n'est pas descendant de Guérim. Tout le monde est descendant de Guérim. Parce que tout le clan Israël s'est converti à ce moment-là. Ça veut dire que tout ce qui est fait avant, c'était pas assez, en tout cas. Pour recevoir la Torah, c'était pas assez. Et maintenant, le Korban, ou Mao Korban Aguer, on dit c'est une Ola. Bema, ou bien deux colombes. Ou deux pigeons. Et ou Bismanazé, et aujourd'hui, chez Encham Korban, c'est-à-dire Mila ou Tvila. Il faut Mila et Tvila, ou que Sheibane met Amigdash, Yavi Korbano. Et le guerre, quand le Betamigdash sera construit, il amènera son Korban. Mais le Korban n'est pas Maakev, ça n'empêche pas d'être un juif de plein pied. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le clan d'Israël a été converti globalement avant Matan Torah, entre la sortie d'Égypte et Matan Torah. Et si les fils de Moshe et Sipora sont venus après Matan Torah, alors ils sont les premiers auxquels on a appliqué la guerre à la Bechenedorot. Il en va de même pour les Dorot, c'est-à-dire quand un individu va venir, ben il va faire à titre individuel le même processus que celui que les Bnei Israël ont fait à titre collectif. Donc cette notion de, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont mieux que les autres, ils ont simplement quelques générations de plus à leur actif. Ils se sont convertis un peu plus tôt, c'est tout. Mais tout le monde est converti. Ça n'empêche pas les gens de s'imaginer qu'ils sont mieux que les autres. Mais... c'est marqué que... Donc, mais c'est tout à fait tragique, vous imaginez. Il y a trois personnes, c'est les enfants, c'est la femme de Moshe et les enfants de Moshe. Ils n'ont pas vécu, en tout cas, c'est, d'après ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas vécu ni la sortie d'Égypte, ni Kriat Yamsouf, ni la guerre contre Amalek. Il y a de quoi déséquilibrer quelqu'un. Vous imaginez un peuple tout entier avec trois exceptions. Et qui ? Les exceptions, c'est qui ? Ben, c'est la famille de Moshe. Yitro, Rashi dit, il avait sept noms. Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Chever, Keni, Potiel. Alors il explique ensuite les différents noms. Et ensuite il se présente comme étant Choten Moshe. Alors... Rashi rapporte, Kan aya Yitro mitkabed be Moshe. Là maintenant, Yitro, il se donne du kavod en disant, ah, je suis le beau-père de Moshe. Ani Choten Amelech, je suis le beau-père du roi. Le Shiavar aya Moshe, Tole Agdoula Bechamiv. Auparavant, c'était Moshe qui disait sa grandeur en tant que je suis le gendre de Yitro, Kohen Midian. C'est marqué, Vayeshevel Yeter Chotno. C'est marqué, il est retourné auprès de Yeter, Yitro, son beau-père. Ensuite, il a entendu, Asher Asa Elohim, le Moshe ou l'Israël Amo. Ici, c'est pas très clair. Amo, c'est qui? C'est le peuple de Moshe? Ou Elohim a fait les choses pour Moshe et pour son peuple à lui, Hachem? Rashi dit, d'abord c'est marqué, il a fait le Moshe ou l'Israël. Il a fait pour Moshe et pour Israël? Il a fait pour Israël. Moshe, il fait partie du clan Israël, non? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait le Moshe ou l'Israël? Alors Rashi dit que Moshe est Keneged pour l'Israël. Moshe, d'une certaine manière, il pèse autant que tout. Ici, à cet endroit-là, c'est un peu compliqué à comprendre. Hachem, il a fait pour Moshe comme si les choses avaient été faites pour Moshe indépendamment du fait qu'il appartient au clan d'Israël. Alors qu'il n'a rien fait de spécial pour Moshe, non? Ou alors est-ce que ce qu'il a entendu, c'est qu'Hachem a fait des choses pour Moshe? Il a fait par exemple que quand Moshe est allé devant Paro et qu'il a commencé à réclamer, et bien entendu Paro il a essayé de le tuer. Seulement, c'est marqué que la nuque de Moshe est devenue aussi comme du marbre, donc ils n'ont rien pu faire contre lui. Et bien entendu, ils ont essayé de le tuer. Vous n'imaginez pas que quelqu'un va venir réclamer l'aide percée de mon peuple, etc., et avec la chutzpa devant Paro, etc., devant toute la cour, et puis on va le laisser vivre. Bien entendu, ils ont essayé de le tuer. Alors, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'Hachem a fait pour Moshe. Et qu'il a donné aussi un pouvoir à Moshe par rapport à Paro. Il était quasiment il jouait le rôle de l'Elohim de Paro. C'est-à-dire, tu seras son Dieu quasiment, tu vas. Donc peut-être qu'effectivement, Hachem a fait des choses spécifiques pour Moshe Rabbeinu qu'il n'a pas faites pour le clan Israël directement. Et quoi la chair à ça, la haine, tout ce qu'il leur a fait au Bnei Israël, alors Rashi dit, qu'est-ce qu'il a en plus donc? Quoi la chair à ça, qu'est-ce que c'est tout ce qu'il a fait? Rashi dit, Biratamman, Babeer ou Be'amalek. Là, tout à coup, c'est trois choses. Ce qu'il a fait pour le clan d'Israël. Il a fait tomber la manne. Hachem a fait tomber la manne. Il a fait en sorte qu'il y ait ce puits permanent, par le mérite de Myriam, qui a accompagné les bénis d'Israël qui avaient de l'eau en permanence. Et Oubé Amalek. Ça, on avait déjà vu qu'il a entendu. Si on dit que c'est déjà inclus dans Vaishma, pourquoi on dit et Kol? C'est-à-dire, Kiyotsi Hashem, Zug Dula Al Kulam. Et ça, c'est la plus grande chose qu'il a faite. Le plus grand, c'est qu'il a sorti les Israël de Mitzrayim. Il y a un sforno qui donne un autre pshat. Sur Achar Shiluchéa, le sforno dit autrement. Le sforno dit Achar Sheshalcha Elav. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'après le sforno, Yitro a envoyé Tzipora chez Moshe. Et puisqu'il y avait la sortie d'Égypte. Il lui a demandé, jusqu'où vous allez maintenant? Vous sortez d'Égypte, vous allez aller où? Elle allait lui demander où vous allez. Quel est le but de l'exercice? Où est-ce que vous allez vous arrêter? Il est en chemin. Où est-ce que... Alors, elle est allée, et Moshe lui a dit que jusqu'au Sinaï, ils ne s'arrêteront pas. Sham Yavdou, là-bas on va servir Hachem, comme c'en était le but. Ta'avdou neta Elokim ala arazé, que Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu au Sinaï, au moment de l'histoire du buisson ardent, il lui a dit, je te promets qu'effectivement vous allez me servir sur cette montagne. Le buisson, il était au Sinaï. Oui. Donc, puisqu'il allait servir Hachem, alors Moshe a dit à Tzipora, il lui a dit, l'étape, ce sera Sinaï. Le fichach, Amar Yitro lavo ad eyot Moshe ve amo sham. C'est pour ça que Yitro est allé rencontrer Moshe et son peuple à cet endroit-là. Il savait que là ils allaient camper. Là on pourrait les voir. Donc on voit, c'est curieux, mais il a envoyé Tzipora demander à Moshe où est-ce que vous allez, quoi. Et pas du tout, lui il n'aime pas du tout cette histoire d'Achar Shiluchéa, que c'est un problème, il n'y a pas cette connotation. Bien sûr qu'il l'a envoyé chez son père, mais il l'a envoyé chez son père comme tous les gens qui ont eu la possibilité de mettre leur famille à l'abri. Et ils ont mis la famille à l'abri, ils ont, on n'a pas amené la famille sur le lieu de la guerre ou le lieu de la souffrance. Ah non? Elle a fait le chemin toute seule d'abord, elle est allée quasiment en Égypte pour voir ce qui se passait. Où vous allez là, au moment de la sortie d'Égypte, peut-être, je ne sais pas quand elle les a trouvés après Kiryat Yam Souf, elle a demandé où vous allez, quand est-ce que vous allez vous arrêter? Elle a dit on s'arrête, disons qu'elle l'a vu 10 jours après la sortie d'Égypte, donc on est après le passage de la mer. Il a dit, bon, ben dans 5 semaines et quelque chose, on sera au Sinaï. Le rendez-vous au Sinaï. Donc elle est retournée chez son père, et son père, à ce moment, on dit Vaïkar, c'est peut-être, d'après ça, c'est le Kavod qui est fait pour Yitro, pour dire que c'est Yitro qui a pris Tzipora. Vraiment, c'est aussi lui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il a compris que voilà, maintenant on peut continuer, elle peut revenir chez son mari, puisqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est plus dangereux, alors où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Pendez-vous là où ils vont s'arrêter. Alors il arrive, Yitro, il vient vers Moshe, El Hamidbar Asher Uchone Sham Arelokim. Dans le désert, là où il campe, là-bas c'était le Har Elokim, c'est-à-dire c'est le Sinaï. Vayomer El Moshe, il a dit à Moshe, Ani Chotencha Yitro, Ba Elecha, Vishtecha Ushnevaneha. Il a dit à Moshe, qu'est-ce que ça veut dire? Où il était? Comment il a fait pour dire à Moshe? Alors Rashi dit, Vayomer El Moshe, Alide Shliach. Il a dit à Moshe, il a envoyé quelqu'un chez Moshe. Il a dit, voilà, je suis Yitro, ton beau-père, j'arrive avec ta femme et ses enfants. Alors la Mechilta, elle dit, alors, il a envoyé un shliach. Il a envoyé quelqu'un pour faire savoir à Moshe qu'il était là. Et la Mechilta dit, Mechilta c'est un midrash halachique sur Shemot, elle dit que Yitro lui a envoyé un message à Moshe et il lui a dit, Imen ata yotze begini, tse begini shtecha. Comment on fait? C'est impossible. Si je réponds à cela, ça coupe l'autre.
Donc tu as été coupé, excusez-moi.
Oui, vous avez été coupé parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis et je ne sais pas comment faire pour vous mettre tous ensemble.
Alors je vais raccrocher.
Non, ça va, j'ai pas le temps. Maintenant, vous êtes là où vous êtes. Alors, il dit, si tu viens pas à ma rencontre à cause de moi, viens à ma rencontre à cause de ta femme. Et si tu viens pas à cause d'elle, alors viens à cause de ses deux fils. Quelque part, c'est curieux, qu'est-ce qu'il lui veut là? Yitro qui dit ça, il envoie un messager à Moshe.
Pourquoi vous dites trois tout à l'heure là? Pourquoi il n'y a pas Yitro dans les.
Ben Yitro c'est pas un juif a priori pour l'instant.
Ben non, mais vous dites il y en a trois qui sont.
Oui, il y en a trois pour l'instant. Après. Quand Yitro sera converti, il y en aura quatre. Mais le paradoxe, il y en a trois qui étaient déjà dans le peuple juif avant et qui sont en dehors, qui n'ont pas vécu ce que le peuple juif a vécu. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il lui veut, pourquoi il le... En tout cas, mon cher...
Tzipora,
elle
n'était pas un peuple juif.
Ah non?
Tzipora non plus, elle est comme son père.
Non, Tzipora, la conversion que tous les gens avaient à ce moment-là, ils ne sont pas épousés que des juifs, que des gens de la famille. Il y avait une conversion standard dans la
commune. C'est
dit quelque
part qu'elle s'est convertie quand elle a épousé
Moshe. Et Sarah et Rivka s'est marqué qu'elle s'est convertie quelque part quand elle a épousé Yitzhak. Et Rachel et Léa sont converties quand elles ont épousé Yaakov. Et Tamar, quand elle a épousé Yehuda, elles sont converties. C'est pas marqué. Mais évidemment qu'elles sont converties, elles sont entrées dans la famille, c'était une espèce de conversion qui n'était pas formelle comme celle d'aujourd'hui. Ça, Ça n'a pas pris la forme d'une conversion standard, mais c'était une adhésion. C'est à la limite les femmes d'Alot, mais c'est la même chose qu'aujourd'hui une conversion à l'islam. Et voilà, j'en suis. Les autres, ils mettent un peu de flotte. Bon, c'est la même chose. J'en suis, c'est tout. Non, c'est pas comme ça. Évidemment que c'était comme ça.
Pourquoi j'en suis, c'était pas tous des bnei noirs.
Mais ils sont tous bnei noirs, mais il y en a une part qui ont dit on va être plus que bnei noirs, c'est-à-dire on va se au départ avant qu'ils descendent en Égypte. On dit on prend sur nous des choses. On dit Avraham Avinu et les Avot sont qui moutent kol haTorah kula. Donc ils ont compris d'eux-mêmes ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait. Après, ça s'est dégradé, mais Lévi, elle a continué de le faire. Donc, ils avaient ce statut-là, ils ne le faisaient plus, ils ne pratiquaient plus. Après, quelque chose commence avec, une pré-conversion, je ne sais pas comment il faut appeler ça, ils sont entrés dans la famille, quoi. Si on n'avait pas une procédure aussi compliquée, si on peut parler comme ça, avec Kabbalah, etc., des mitzvot et tout, voilà, tu veux être juif, tu l'es, voilà, ça y est, t'es juif. Quelqu'un vient et dit, je veux appartenir au peuple juif. Ben oui, d'accord, voilà, tu y es, Shalom Aleichem. C'est-à-dire, seulement c'est pas comme ça, il y a des... La Torah l'a prévu, justement, c'est ce que je vous ai lu au nom du Rambam, le Chéné Dorot. Comme les Bnei Israël, on leur a imposé aussi... Une conversion, on aurait pu dire, vous êtes ce que vous êtes, et vous avez accepté la Torah. Pourquoi il fallait ce processus de conversion avant la Torah, n'est-ce pas? Tout ça, ça s'est fait avant de recevoir la Torah. On a mis là en Égypte, dans le désert, etc. Bon, alors ce processus-là fait partie d'une alliance. Bon, c'est pas simplement... Pour entrer dans une alliance, il y a toujours une cérémonie, ou quelque chose qui veut une initiation, ou un truc comme ça.
Et,
non, mais ça, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'effectivement, là, tu as parfaitement raison, ils étaient la tribu de Lévi. Donc, eux, ils faisaient la Mila. Moshe est la tribu de Lévi. Donc, eux, ils ont continué de faire la Mila. Donc, quand Tzipora, elle fait la Mila en chemin, avant qu'il la renvoie, elle fait la Mila, parce qu'elle est tout à fait dans la famille, et voilà, bon, elle fait la Mila... pour Moshe, pour à la place de Moshe sur ses fils, qu'il ne l'avait pas fait pour des raisons techniques. Donc ils ont fait la Mila, parce qu'eux, ils faisaient ça encore. Et en Égypte, ça s'est dégradé, et ils avaient arrêté de faire. Alors, donc, il lui envoie ce message. Le pasouk dit, Yetse Moshe l'ikrat rotno. Alors, Moshe est sorti à la rencontre de son beau-père. Vaishtachou, il s'est prosterné devant lui. Vaishaklo, il l'a embrassé. Vaishalou, ish le re'eu, le shalom. Ils se sont demandé comment ça va. Comment ça va? Vayavou Oela. Après, ils sont entrés dans la maison. D'abord, il est à la rencontre, donc ça c'est à l'extérieur, puis après, ils sont entrés dans la maison. Et Vaisaper Moshe, le Chotno, et Kol, Asher Asa Hashem, les paroles, Mitzraim. Moshe Rabbeinu a raconté à Yitro tout ce qu'Hashem avait fait. À Paro et à l'Égypte, à l'Odot Israël, en faveur d'Israël. Et kolatlaa, Hashem atzatam, toutes les ennuis qu'ils ont eus, baderech, vayatzilem, Hashem, et dont Hashem les a sauvés. Qu'est-ce qu'il lui raconte? C'est marqué, il a entendu ça déjà, sorti d'Égypte. Qu'est-ce que Moshe lui raconte? C'est marqué, vaishma, et après, qu'est-ce qu'il a entendu? Ki hotzi Hashem et Israël mimitzraim. Bon, c'est pas une question. Bien entendu, raconté par Moshe Rabbeinu de l'intérieur avec tous les détails, ça n'a rien à voir avec ce que lui il a entendu. Les Juifs sont sortis d'Égypte. miraculeusement, etc. Mais bon, il n'avait aucune idée du comment, de comment ça s'est fait. Maintenant, Moshe lui raconte de l'intérieur tout ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, Rashi dit, Vaisaper Moshe le Chotno, pourquoi il lui raconte ça? Limshoch et libo le carvo la Torah. Moshe raconte pour le sensibiliser, pour l'attirer, pour le rapprocher de la Torah. Alors, Yitro vient, on ne sait pas exactement dans quel état d'esprit il est venu. Est-ce qu'il est venu pour se convertir déjà à ce moment-là? En tout cas, on voit que Moshe Rabbeinu, il entend tout de suite, il arrive et il l'entreprend, quoi. Tout de suite, il va essayer de le convaincre d'adhérer à la Torah. Donc il lui raconte pour le faire adhérer à la Torah.
Une inspiration, le prosélytisme?
Non, à ce moment-là, ce n'était pas un sou. Oui.
C'est
oui.
Donc il sait, Moshe, c'est déjà qui l'a fait.
Oui, il sait que c'est un bonhomme qui a une recherche.
Oui.
Donc il a montré à Yitro toute la Hashgaha Pratit, etc. Oui, alors après, le pasuk dit... Et Kolatla, il a aussi raconté tout ce qui est passé à la Yam, Ve chez l'Amalek, il a raconté la guerre contre Amalek. Atla, bon, ça c'est l'Amed Aleph, on va sortir ce morceau-là. Et alors le pasuk dit, Vayichad Yitro al Kolatova, Asher asa Hashem l'Israël, Asher itzilo miyan mitzrayim. Ha, vaichad, ça veut dire c'est réjoui. Vaichad Yitro, vaismach Yitro. Yitro, c'est réjoui. Ze pshuto. Ça, c'est le sens obvi du texte. Mais pourquoi on est allé chercher? Pourquoi c'est pas marqué vaismach Yitro? C'est allé chercher un mot. C'est vrai que ça veut dire il s'est réjoui. Mais pourquoi aller chercher ce. C'est la chaîne de Chedva. Chedva, c'est la joie. Alors, Chazal ont compris ici qu'il y avait un double sens. Et ils ont dit Chad, Vaychad, ça veut dire Chad, c'est pointu. Alors, ça veut dire que Yitro, il a eu la chair de poule. Il a attrapé la chair de poule dans le récit que Moshe lui a fait. La pointe, la petite pointe. Au Midrash Agada, Naase besaro chidudim chidudim, metzar alibud mitzraim. Il a souffert de la destruction de l'Égypte. C'était son peuple, quand même. Yitro, c'est un Égyptien, s'il est dans le conseil de...
Oui, mais c'est enfui.
Oui, d'accord, mais donc, on voit que... Et Chazal, on déduit ici que un guerre, il reste... Chez, il ne faut pas dire du mal de son peuple, du peuple dont il est issu, même s'il s'est coupé de ce peuple, mais 10 générations. C'est-à-dire qu'il y a une... quand on... Il y a un attachement au peuple dont on est issu. D'être, je sais pas, disons, je sais pas si aujourd'hui c'est toujours comme ça, parce que l'appartenance au peuple n'est peut-être pas la même qu'alors, aujourd'hui c'est un peu formel, quoi. Mais il y a un attachement, ça veut dire, bien sûr, j'ai rompu avec eux, lui il a même rompu doublement, puisqu'il avait déjà rompu avant de... Pas seulement qu'il va devenir juif et qu'il va adhérer au malheur juif, mais il avait déjà rompu avec eux parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon de faire de Paro. Il était un paria de la société égyptienne et malgré tout, ça lui fait mal quand il entend le mal, quand il entend la souffrance égyptienne. Le Sforno, il a lu... לא סמך על אובדן מצרים כראוי למקנה לכבוד קונו. Il ne s'est pas réjoui. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il ne s'est pas réjoui de la destruction de l'Égypte comme il aurait convenu pour quelqu'un qui a à cœur le kavod d'Hachem. Puisqu'eux sont révoltés contre Hachem, et donc c'est bien qu'ils aient été détruits, c'est marqué qu'il y a Ismar Tzadik qui chazanaka. C'est le Tzadik qui doit se réjouir lorsqu'il a la vengeance d'Hachem. Lorsqu'il voit. Cette histoire de la vengeance, c'est avec vous qu'on en a parlé. La notion de vengeance, nous on n'a pas le droit de se venger. Dans la Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de se venger. Pourtant, c'est marqué Kel Nekamot Hachem. C'est marqué le Shem Hachem entre deux, le mot Nekama entre deux noms divins. Hachem se venge. Se venger, c'est remettre les choses en place. Nous, on n'a pas le droit parce que nous, on ne remet pas vraiment les choses en place. On n'a pas le pouvoir. Mais Hachem, la vengeance d'Hachem, c'est lorsque les gens se sont révoltés contre lui ou comme ça. Alors, il remet les choses exactement en place. Il répare complètement. Alors ça, on a le droit. Mais comme nous, les hommes, ne sommes pas capables de le faire, alors on a un interdit de Nekama, parce que chez nous, ça, si ça ne répare pas, on n'a pas le droit, quoi, quelque part. Et donc lui, il aurait dû se réjouir de voir que les ennemis d'Hachem sont détruits. C'est un privilège. C'est marqué qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu avant que Moshe Rabbeinu meure, il lui a dit, tu as encore la possibilité de prendre la vengeance contre les Midianites. À cause de toute l'histoire qu'ils nous ont faite, sur la conseil de Bilam avec les princesses qui se sont prostituées, etc. Et ça c'est un privilège qu'Hachem a donné à Moshe de voir la chute des ennemis. On sait, il savait, Moshe, que les ennemis ne vont pas l'emporter en paradis, comme on dit. Il savait. Mais de le voir, c'est un privilège. Hachem lui a fait cette tova de le lui montrer. Et là, le tzadik, quand il a l'occasion de voir, effectivement, que les ennemis d'Hachem sont punis, donc Hachem voit le triomphe d'Hachem, il devrait se réjouir totalement. Ce que dit Soho, c'est qu'il ne s'est pas réjoui suffisamment. Il s'est réjoui, mais pas suffisamment.
Il y a le Midrash là, sur les anges. Ils n'ont pas le droit de.
Non, parce que eux, c'est les anges. Ils n'ont pas été en danger.
Mais il n'a pas été sauvé.
Qui?
Trop non plus.
Qui?
Yitro, il n'a pas été sauvé.
Non, mais il doit se. Non, mais maintenant, d'entendre. D'entendre que se réjouir non de ce que Hachem a permis au Bnei Israël de se venger, enfin d'être vengé plus exactement, ou c'est-à-dire que Hachem de se venger, ça c'est quelque chose pour un homme, normalement il aurait dû ça fait partie du travail, le tzaddik il doit être capable de faire ça. Les anges ils ne sont pas concernés, c'est pas leur problème.
Hachem il n'était pas content qu'on soit trop.
qu'on se réjouisse trop de la destruction de ces créatures. Même les Égyptiens, c'était des créatures d'Hachem.
Oui, bien sûr. Mais nous, on a le droit, c'est ce qui était ça, ce que tu cites, ce sont les anges, l'histoire des anges. C'est-à-dire, Masé Yada et Tavim Bayam, mes créatures sont en train de se noyer, comment est-ce que vous pouvez vous réjouir ? Les Bnei Israël, ils se réjouissent parce que c'est leurs ennemis. Mais vous, les anges, vous n'étiez pas en danger. Donc vous n'avez pas lieu de vous réjouir.
Ah, mais Yitro, il va être pour Hachem.
Il
est en face à ce que de Hachem demande aux anges.
Oui, en fait, en réalité, ce qui se passe ici, c'est. Il aurait dû se. Quelque part s'identifier avec les Bnei Israël. Et se réjouir. Et lui, il dit quelque chose d'assez intéressant, le Sforno ici, il ajoute, il dit, Samach al Tovatam shel Israël, Kemrachem al Dimata Ashukim. En vérité, il s'est réjoui, mais il ne s'est réjoui, il s'est seulement réjoui du bien qui a été fait au Bnei Israël. Il ne s'est pas réjoui de la destruction des mauvais. Il s'est seulement parfaitement réjoui du bien qui a été fait au bon, si on parle comme ça. Et il y aurait une obligation de se réjouir de la destruction des méchants. Pas seulement du bien qui a été fait au Tzadikim.
Mais l'ennemi d'Israël, c'est Amalek, c'est pas Israël.
Oh, si, mais c'est l'ennemi par excellence, c'est Amalek. Mais Israël, c'est bien l'ennemi d'Israël à ce moment-là. Que on doit se réjouir de la
destruction
de Mitzrim. Votre question elle est bonne parce que il y a les psukim qui vont des morceaux de Gemara qui vont dans l'autre sens. Oui, enfin, c'est pas lui, c'est Chazal qui disent qu'il l'a mal pris. Alors lui dit pourquoi, en quoi est-ce qu'il l'a mal pris? C'est il a été capable de se réjouir du bien qui est arrivé à Israël, il n'était pas capable de se réjouir de la destruction de ceux des ennemis d'Israël qui sont les ennemis d'Hachem à ce moment-là.
Mais là, ça vient souligner quand même que on dit c'est un peu péjoratif, on dit la guerre jusqu'à la 10e génération.
Il faut pas critiquer.
De son peuple d'origine devant lui, quoi.
Oui.
C'est un peu.
Pourquoi ça fait partie. On est en train de dire que c'est normal d'être attaché à des gens avec lesquels on a des liens, etc. On s'est coupé de ces gens pour servir Hachem. Mais quelque part, il y a des valeurs. C'est le terroir, je sais pas, c'est.
Mais Moshe, il est un peu dans cette situation.
Il est
non. Il est un peu dans cette situation. Il s'est coupé de tous les honneurs et tout ça quand il était enfant. Après, quand il est devenu adulte, il s'est coupé de toute la société égyptienne pour aller vers.
Ouais, mais il trop aussi en s'exilant.
Il est en quoi
Moshe, il s'est. Quand on dit qu'il trop, il a du mal à s'attacher de son peuple.
Oui.
Quelque part, Israël, c'est aussi le peuple de Moshe avant.
Bon, mais Moshe, il n'est pas le peuple de Moshe. Mais Mitzrayim, c'est pas le peuple de Moshe. Moshe, il a été élevé par la fille de Paro, qui était elle-même en révolte contre son père. On dit qu'en est descendue au fleuve, elle s'est convertie.
Et là, la façon dont c'est dit et comment c'est passé, on a l'impression qu'on vient quand même un peu critiquer Yitro. Qu'il s'est réjoui,
visiblement, il n'a pas été capable de se réjouir. Par ailleurs, on va dire des choses extraordinaires sur Yitro. C'est-à-dire c'est le premier qui a dit Baruch Hashem, il a fait une bracha sur la sortie d'Égypte, alors que personne ne l'a fait jusque-là. Donc, il est capable de C'est un super grand bonhomme. Mais justement, peut-être qu'on veut dire, on ne peut pas négliger complètement des éléments qui, semble-t-il, sont essentiels. Alors, je ne sais pas si on va dire que, je sais pas quoi, que Rabbi Meir ou Onkelès, ils avaient encore des acquaintances avec les Romains. On l'a pas dit, mais peut-être que...
C'est dit que de lui, il faut. Et pourtant, comme vous l'avez souvent dit vous-même, mais on a toute la Torah orale, la transmission, c'est parsemé de guéris.
Tout à fait. Mais il s'agit... On ne dit pas du tout que ce n'est pas bien.
Oui, c'est pas quelque chose qui est négatif.
Ça a l'air d'être une constatation presque physique, quoi, quelque chose de... Et on te dit, mais tu dois faire attention. Oui. Fais-le, fais attention, ne le choque pas, c'est pas nécessaire.
Il y a peut-être
une sensibilité. Oui, la sensibilité, elle s'en va pas. C'est
pas forcément facile à surmonter. On peut avoir intellectuellement.
Tout à fait, oui.
Un choix,
il y a aussi
Un instant, il faut remarquer aussi que c'est pas une halakha psouka, c'est marqué Amré Inche. Les gens disent cela. C'est une expérience. Oui, les gens disent, on voit. Alors bon, il y a l'exagération à Dassara d'Aré, je veux dire, 10 générations, franchement dit. Quelqu'un est allé une fois voir. Pour un shidduch, il est allé voir le baron Lev Steinman, il l'adore. Il dit, oui, mais il y a un problème avec le grand-père. Le baron Lev, tu connais mon grand-père à moi? Je ne connais pas. On ne sait rien. Qu'est-ce que tu quoi tu parles?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelques mon grand-père. Il y a des gens qui refoulent complètement des gays, qui refoulent leur origine. Au plus loin, quoi. C'est-à-dire,
C'est peut-être une certaine façon de rester encore sensible. Ah. Si tu fais tout ce travail-là, c'est que, à la limite, ça devrait être indifférent. Si ça existe, la différence n'existe pas, je veux dire, par rapport à des choses, c'est le problème de sensibilité, d'émotion, etc. Mais au contraire, quand les gens se mettent à refouler, ben, ça veut dire qu'au contraire, ils n'ont pas réglé le problème. Ils sont en train d'essayer de l'enfouir, mais ils se sont essayés de creuser très profond pour que le cadavre ne remonte jamais, mais ça remonte tout le temps.
Mais quelquefois, l'assimilation des chiffres est tellement profonde que on se retrouve aussi à des gâteaux d'ordre.
Qu'avez-vous dit? J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Enfin.
Il y avait des juifs qui sont tellement assimilés que, disons que leur sensibilité est très fortement. Vous voyez, je pense à l'histoire des juifs allemands qui en 40 suivaient avec passion la progression de l'armée allemande.
Oui. Ouais, ils étaient des Allemands de confession mosaïque.
Il
y avait les Français, hein, de confession mosaïque aussi.
Ouais.
Quand tu écoutes ce que raconte Dreyfus, ou bien Fred Dreyfus, ou comme ça...
Non, il n'y a pas une seule fois le mot « juif » en fait, correspondance avec la femme.
Rien du tout.
C'est
complètement assimilé, je veux dire... parle de la France.
Ouais, une pathologie.
Non.
Je demandais quel Dreyfus, capitaine.
Alfred, oui. Le capitaine.
De Mulhouse.
Voilà. Alors, Vayomer Yitro, et voilà Yitro qui fait la bracha. Baruch Hashem, asher itzil etchem miyad Mitzrayim, ou miyad Paro, asher itzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim. Baruch. La honte pour le peuple juif, pour les autres. Comment dire l'archouma?
D'autres formes d'assimilation.
La chira, c'était une forme de bracha.
Non. C'est ils ont chanté la grandeur d'Hachem, mais c'est pas Baruch. Baruch, c'est quelque chose de particulier. On n'est pas c'est une bracha, si tu dis sous la forme d'une shira. Baruch, c'est un mot bien précis. Tu veux une augmentation des choses.
Mais la
shira,
c'est pas plus élevé.
Non, la shira, c'est sur un autre registre complètement. La shira, tu chantes la louange, tu dis les choses qui peuvent pas se dire en mots, parce que c'est pour ça que ça a pris la forme de shira et tout ce que tu veux, mais ça n'a pas du tout la dimension d'une bracha. Pas du tout. Nous, alors, pour que, c'est vraiment une occasion de dire Baruch, non? Baruch Hashem.
Yitro, c'est un prêtre professionnel. Donc, c'est son boulot, finalement.
Oui, voilà. On est sauvés. Il y a un truc de Nezra qui explique ce mot de Baruch et tout. Mais j'y comprends rien, je sais, c'est de la grammaire, je comprends rien.
Mais Rachid dit rien par contre.
Non, Rachid il parlera sur le contenu, mais pas sur le Baruch lui-même.
Et quand il dit ça, c'est pas aussi une forme de solidarité avec Mitzrayim, de la même manière qu'il ne s'est pas réjoui de la destruction, c'est aussi un remerciement pour qu'ils n'aient pas pu jouer leur rôle jusqu'au bout.
Yitro, Baruch Hashem, Asher Hitzil Etchem Miyad Mitzrayim, Umiyad Paro, Asher Hitzil Et Ha'am, Mitachat Yad Mitzrayim. J'ai pas bien compris ce que tu as dit là.
On dit que Yitro, il s'était pas réjoui de la destruction du mauvais, des Mitzrayim. Quand il dit Baruch Hashem, que Hashem les ait sauvés des Mitzrayim, c'est Baruch Hashem que les Mitzrayim n'aient pas joué leur rôle jusqu'au bout et ne les aient pas détruit les Bnei Israël, mais qu'à un moment ce soit arrêté. Quoi.
Mais je vois pas le lien que tu fais. Tu as raison. Et, bon, la bracha elle est sur le fait qu'Hachem les a sauvés. Que l'Égypte était en position, semble-t-il. S'il faut les sauver, c'est que l'Égypte, a priori, aurait pu les détruire. Oui. Si on n'a pas besoin de sauver quelqu'un qui, de toute manière, n'était pas vraiment en danger.
Sans Hachem, ils les auraient rattrapés, ils les auraient tous dit oui, c'est évident.
Non, ils les auraient dû en esclavage, de nouveau.
Moi, je le dis, c'est quand on dit je remercie qu'Hachem les ait sauvés. Est-ce que je remercie parce que pour la conférence positive, ou est-ce que je remercie pour le négatif qui n'a pas été.
Là, j'ai l'impression que c'est le positif. Là.
Parce qu'il dit vous, qui vous êtes.
Non, Asher, non, non. Asher Itzil, oui, oui, Asher Itzil Etrem, vous, les Bnei Israël. Il a sauvé le peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'il dise vous? C'est vrai, c'est, lui, il n'était pas en danger.
Oui, que c'était pour les Bnei
Israël. Oui, oui, oui.
Négatif,
et il dit maintenant, Atayadati, maintenant je sais, qui gadol Hashem mikol Elohim. Hashem est plus grand que les autres Elohim, qui va d'avoir Hashem Zadou Alehem, ce qui les a punis avec ce qu'ils voulaient faire, eux. Il leur a fait ce qu'eux voulaient faire. Au Bnei Israël.
On a l'impression que c'est a fortiori, quoi. Si un hébreu dit la première bénédiction, alors a fortiori, les hébreux en diront. Enfin, je ne sais pas, comme s'il avait convaincu ce qui était encore plus difficile de convaincre. Quand même, c'est drôle que les enfants de Tsipora et les enfants de Moïse arrivent ici avec le trou. Ils pouvaient arriver sans son père. Elle pouvait venir sans son père. Pourquoi Hachem fait intervenir Yitro là?
Parce qu'Yitro doit se convertir.
Oui. Et donc, s'il doit se convertir, c'est la figure de l'étranger par excellence. Donc, si l'étranger déjà remercie. Béni Hachem, enfin le remercie Hachem, alors encore plus après les Hébreux le trouvent.
Oui, mais ce qu'on fait comme reproche aux Hébreux, c'est de ne pas l'avoir fait en premier. Ils étaient les premiers concernés, ils auraient dû dire Baruch Hachem en premier, et pas attendre que Yitro vienne dire Baruch Hachem qui vous a sauvé, ils auraient dû dire Baruch Hachem qui nous a sauvé.
On leur fait le reproche.
Oui. Non, mais ici, c'est pas marqué directement, il n'y ramène pas, mais c'est...
Non, nous, on s'étonne qu'il n'ait pas dit en premier, mais est-ce que... Enfin, on peut s'étonner, mais...
Ils considèrent que c'est un reproche.
Ah, c'est la phrase, ils disent qu'il y a un reproche, qu'il n'ait pas dit en premier.
Que les Bnei Israël, oui.
Il n'ait pas dit en premier.
Mais bien sûr. Hein.
En fait, on peut peut-être penser que c'est qu'il a une distance que les autres n'ont pas. Les Bnei Israël étaient collés sur les vêtements... Alors que lui, au contraire, il avait une possibilité de voir les choses de plus loin et de façon plus structurale. Et c'est pour ça qu'ensuite il dit qu'il le resitue dans toute l'histoire et dans tout disons, ce que pouvaient penser les hommes à l'époque. Et donc il voit l'énormité de ce qui s'est passé parce qu'il est plus loin, justement, précisément parce qu'il n'était pas le nez sur les choses, sur les faits.
Oui, c'est donc, très possible.
C'est plus facile. Il y a une sorte d'objectivité qu'il a là, et qui lui donne une force.
Oui. Ah, dans Sanhedrin d'Av Tzadik Daled Amoud Alef, Tani Mishum Raf HaPaïs, Gnaï Hu le Moshe Veshishim Ribo. C'est un Gnaï, c'est très négatif. Pour Moshe et pour les 600 000. Shelo Amru Baruch Ad Sheba Yitro Ve'amar Baruch Hashem. Jusqu'à ce que Yitro vienne, et c'est lui qui a dit la bracha. Dans le Torah Tmima, dans son commentaire, il dit quelque chose qui est en fait une réponse à... Il soulève de facto la question que tu avais posée. Il dit, Tzarech Lomar, il faut dire, de Mash et Sharu Israël et Ashira, quand ils ont chanté la Shira, Enze Bichlal Bracha Veoda. C'est pas inclus du tout dans le processus de Bracha et de reconnaissance. Et la Rak Shevach Veteila. C'est seulement des louanges. Et même ça, il y a rak le nes kriat yamsouf, et non l'itiat Mitzrayim. Et ils l'ont chanté et ils n'ont pas mentionné autre chose que le Kriyat Yam Souf et pas la sortie d'Égypte elle-même. Tandis que lui, il parle de la sortie d'Égypte. Voilà, on va s'arrêter là. Bonsoir. Thank you.